alors Carrefour Chrétien de la Capitale. Est-ce qu'on peut inviter notre prédicateur invité, pasteur Michaël Brugère?
Bon matin tout le monde. Laissez-moi juste me placer. Vous êtes une belle église. Vous êtes vraiment une belle église. On est bénis d'être avec vous ce matin. Merci pour l'invitation aussi. Je vous transmets toutes les salutations de l'église Mosaïque, de l'équipe de l'église Mosaïque qui m'ont précisément, tu les salues, hein, tu leur dis bonjour. Fait que, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin et je tiens à souligner le courage de votre pasteur parce que je pense qu'il m'a jamais entendu prêcher encore. Il a pris un risque ce matin. Non, merci. Merci vraiment pour le privilège de pouvoir apporter la parole ce matin. C'est un plaisir, c'est un privilège vraiment. Nous aussi, on aime le Carrefour à Mosaïque. On parle souvent de vous. Et ce matin, j'étais surpris de voir plusieurs personnes de Mosaïque qui étaient là ce matin. C'est un add-on, mais vraiment un privilège d'être avec vous. Et aussi, je veux préciser une chose en commençant. L'accent que vous entendez, ça vient de la Suisse. C'est pas une maladie et ça se donne pas. Ben, ça peut se donner si tu restes très longtemps en contact, mais ça va. C'est pas si pire. Fait que ce matin, vraiment, j'aimerais qu'on puisse... on est à une semaine de Pâques, on vient de célébrer la résurrection il y a quelques jours en arrière, puis j'aimerais qu'on puisse aller voir dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, la fin de l'Évangile de Jean, les dernières paroles, les derniers passages. C'est un passage qui se situe à quelques jours de la résurrection, et je suis convaincu ce matin qu'il y a une parole de Dieu pour plusieurs, mais j'aimerais commencer par prier, si vous me permettez. Seigneur, on te rend grâce pour ta présence. On te rend grâce parce que tu es dans ce lieu. Tu es ici, Seigneur. Tu nous devançais ce matin. Quel que soit, Seigneur, notre arrière-plan, quels que soient les événements que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, Seigneur, tu es là. Et Seigneur, nous te reconnaissons comme roi ici. Seigneur, merci parce que nous l'avons senti. Tu es présent dans la louange. Tu es présent dans ce lieu. Et Seigneur, je prie que tu puisses ouvrir nos cœurs à ta parole ce matin. Que ta parole puisse nous transformer. Que ta parole puisse parler à notre âme. Seigneur, que nous puissions repartir différents, Seigneur, de ce que nous sommes arrivés ce matin. Et que, Seigneur, par ta parole, Seigneur, tu puisses transformer des cœurs, Seigneur. Je te prie de me permettre de partager ces quelques mots de la meilleure manière. Accorde-moi les bons mots ce matin, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, ouvre nos cœurs et nos oreilles spirituelles pour que nous puissions recevoir de toi ce que toi tu as prévu ce matin. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Vous savez, il existe toutes sortes de personnalités hein, sur Terre. Il y a toutes sortes de personnalités qui nous entourent. Vous l'avez probablement déjà remarqué dans votre famille, parmi votre entourage, vos collègues et tout ça. Il y a des gens qui sont connaissants comme c'est pas possible. Mon meilleur ami en Suisse s'appelle Olivier. C'est mon témoin de mariage aussi. C'est ce genre de gars qui a des diplômes par-dessus des diplômes, qui est connaissant, qui connaît des choses. Il est brillant comme c'est pas permis. C'en est frustrant pour vrai. C'est pas possible. On a deux écoles polytechniques en Suisse. Il y en a une en partie francophone, une en partie suisse-allemande, une à Lausanne, une à Zurich, qui est dans la partie suisse-allemande. Et en général, le programme de 4 ans en génie civil, la première année, c'est un très, très, très haut pourcentage. On parle de près de 90% des étudiants qui échouent la première année, qui doivent refaire. Lui fait partie du petit pourcentage qui a réussi avec des notes de mention. Facile, donc tellement facile pour lui, il est allé faire ses 3 années suivantes en allemand. Et il a encore réussi sans problème. Fait que c'est ce genre de gars-là. Mais c'est le genre de gars aussi, si tu lui poses pas de questions, si tu creuses pas un petit peu, il va jamais étaler son savoir. Il est connaissant comme c'est pas possible. Et il est vraiment humble, comme j'en ai rarement vu des personnes comme ça. Et si tu lui demandes pas, tu sais pas qu'il est comme ça. Tu le remarques pas. Même dans ses tenues vestimentaires, le type a rien à prouver. Puis, c'est mon ami, là. Il y a vraiment rien à prouver. Tu sais, quand tu portes des gougounes avec des bas blancs, t'as vraiment rien à prouver. C'est mon ami. Mais c'est pas un gars qui subit la vie d'une anxiété, d'une angoisse à l'autre, d'une insécurité à l'autre. C'est vraiment, il est tranquille, il est relax comme on peut pas. On aimerait tous être un petit peu comme ça. Moi, j'aimerais ça être plus détendu dans la vie, plus relax. Mais la réalité, c'est que ça serait pas le fun si on était tous pareils. On est d'accord? Ce serait pas le fun si on était tous pareils. Dieu nous a créés différents. Il nous a créés différents et complémentaires pour qu'on puisse se complémenter les uns les autres. Il a voulu qu'on puisse être, qu'on puisse se supporter dans nos faiblesses, dans nos forces. Il n'a pas voulu qu'on ait tous les mêmes forces. Il a voulu que certains soient forts dans certains domaines et d'autres soient faibles dans d'autres pour qu'on puisse être à la fois dépendant de lui, mais pour qu'on puisse reconnaître qu'on a besoin des autres aussi autour de nous. Il y a des gens qui sont relax comme on n'a pas, c'est pas permis de l'être sur Terre. Olivier, c'est son cas. Il y en a qui sont pressés, par contre. Il y en a qui sont tout le temps pressés, en retard, qui ont toujours besoin de rattraper le temps. Il y en a, comme mon ami, qui s'assument et qui n'ont rien à prouver. Rien à prouver. Tu n'as rien à prouver à personne, tu t'assumes. Il y en a d'autres qui ont toujours l'impression de devoir performer, qui ont toujours l'impression de subir la pression que eux se sont mis ou que les autres ont mis sur leur dos. Il y en a qui ont si on pas un petit peu d'encouragement, une tape dans le dos, ils sont en train de se déconfire en plus. Bon, non, excusez-moi, se déconfire. J'ai inventé un nouveau mot ce matin. Ça se peut-tu? Non? Je viens d'inventer un nouveau mot. Ils sont en train de se décomposer en public directement, alors que d'autres n'ont pas besoin d'être encouragés du tout. Il y a des gens qui sont en mode analyse sur à peu près toutes les probabilités possibles, potentielles, qui pourraient arriver sur quelque chose. Puis il y a ceux qui sont pleins d'assurance et parfois tu te dis « Mah, il va frapper le mur, c'est pas possible ». Ça vaut pour nous aujourd'hui, mais ça valait aussi pour les 12 disciples qui étaient avec Jésus. Les 12 hommes qui ont marché avec Jésus avaient toute une personnalité différente. Si on regarde les évangiles, on remarque très très bien que c'est pas un groupe uniforme. C'est de loin pas un groupe uniforme. T'as des fonceurs là-dedans. T'as des fonceurs comme Pierre. T'as des contemplatifs. T'as des personnes qui se soucient de rien. Ils sont relax, tout va bien. Ils suivent le groupe. T'en as qui se font des scénarios pour à peu près tout. T'as des trouillards dans l'équipe. Il y en a qui ont crainte. Il y en a qui ont des doutes. Les 12 sont extrêmement différents, mais moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que malgré toutes leurs différences, c'est l'attitude de Jésus envers eux. Jésus est perspicace avec eux, c'est incroyable. Et c'est la première bonne nouvelle pour nous ce matin. Première bonne nouvelle pour nous ce matin qui sommes à l'église, on est tous différents, on est d'accord, vous l'avez probablement remarqué là. On n'a pas le même accent, on n'a pas le même arrière-plan, chacun d'entre nous, on vient d'un arrière-plan différent. La première bonne nouvelle pour nous, c'est que si tu as l'impression parfois de pas fitter dans le cadre, t'es à la bonne place ce matin. T'es à la bonne place quand même. Parce que dans le royaume de Dieu, ce qu'on vise, ce que le royaume de Dieu déclare qui est pour être, là, c'est pas l'uniformité, mais c'est l'unité. Dans l'unité, nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à avancer dans la complémentarité. Et la deuxième bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus n'a jamais cherché à s'entourer d'un groupe uniforme. Au contraire, c'est lui qui a sélectionné ces 12-là. Et vous savez pourquoi? Jésus aime se tenir avec ceux qui ont la trouille, comme il aime se tenir avec ceux qui sont pleins de courage. Jésus aime se tenir avec des personnes de toutes sortes, de tout type. Jésus aime se tenir avec toi. Jésus tient à se tenir avec toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Jésus est perspicace avec ses disciples. Tellement souvent, on se place sous toutes sortes de limitations en personnel, hein, en comparant le meilleur de ce qu'on voit des autres, parce qu'on va se le dire. La réalité, c'est que dimanche après dimanche, on présente la meilleure face. Ce matin, je me suis brossé les dents. Je veux que ça sente bon. Puis, je me suis habillé quand même correct. Je ne suis pas aussi beau que votre pasteur, mais je fais de mon mieux. Mais on présente le meilleur de ce qu'on a. On présente, sans parler de façade ou de masque, on se présente du mieux possible aux autres. Fait qu'on compare ce qu'on voit des autres, qui est la meilleure version, avec le pire de ce qu'on sent à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on fait bien souvent. On fait ça. Tellement souvent, on se place sous toutes sortes de limitations. Mais Jésus aime se tenir avec nous. Jésus aime se tenir avec toi tel que tu es. Fait que t'es à ta place ce matin. Dieu veut prendre ses traits, comme il l'a fait avec ses disciples. Il veut prendre ses traits qui sont les nôtres, parce qu'il nous a créés de cette manière-là. Et il veut le transformer pour sa gloire. Il veut s'en servir. Il veut se servir de toi tel que tu es. Fait que j'aimerais qu'on puisse lire ce matin une première partie du passage qu'on va regarder. Et je veux juste placer un peu de contexte au fil qu'on va avancer. Jean 21, au verset 14, quelques jours après la résurrection. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent pas à le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'ils eurent entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient pas loin de la rive et à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Et Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Et Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car ils savaient que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Tout ça, ça se passe alors que Jésus a passé 3 ans à cheminer avec ces 12 hommes-là. Ça fait 3 ans que ces personnes-là bâtissent une relation. Il y a une relation qui s'est établie, il y a une amitié qui s'est bâtie, il y a une confiance qui s'est créée entre eux. Vous savez, qui a regardé un peu la série Chosen? L'élu? L'élu en français? Ouais. Moi, j'aime cette série-là. On peut questionner des fois sur certains points, mais j'aime cette série-là parce qu'on a fait l'effort d'aller lire entre les lignes des évangiles. Parce que les évangiles nous sortent les grands traits, nous sortent les faits quelque part qui sont poignants, qui sont importants. Mais ces gars-là ont vécu 24-7 pendant 3 ans ensemble. C'est sûr qu'il y en a forcément un qui a conté une joke à un moment donné à Jésus, puis que Jésus a dit, « Ah, quelle est bonne celle-là !» C'est sûr. Puis ça se peut que des fois, « Point, 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 pas drôle celle-là. » C'est certain. Il les a vus aller dans toutes sortes de situations, là. Quand ils étaient sous pression, il les a vus réagir. Quand ça allait bien, il les a vus aussi. Il les a entendus dire toutes sortes de choses très sages et complètement à côté de la plaque. Complètement à l'ouest. Et ces gars-là, ces 12 hommes-là, ont vu des miracles. Ont vu des miracles à la pelle. Ont vu des miracles fous. Mais ils se demandent encore, c'est qui le chouchou de Jésus? Ils ont vu toutes sortes d'affaires. Mais c'est vrai, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vécu toutes sortes d'affaires avec Jésus. Ils ont vu Jésus prier. À tous les matins, ils l'ont vu se lever. Ils ont vu Jésus se préparer. Ils ont vu Jésus enseigner. Ils ont vu Jésus poser sa main sur toutes sortes de malades qui ont vécu une guérison, une délivrance. Et ils veulent savoir c'est qui le chouchou du maître encore. Ils se demandent, come on. Ils ont demandé à Jésus, est-ce qu'on peut demander que le feu du ciel descende sur la gang qui nous aime pas? Jésus les a entendus dire des choses très très sages, puis des fois un petit peu à côté de la plaque. Et on voit aussi dans les évangiles qu'ils ne comprennent pas toujours ce que Jésus est venu faire. Jusqu'à la fin, ils ne comprennent pas, jusqu'à ce que tout soit accompli, ils n'ont pas encore compris. Jusqu'à la fin, ils étaient plusieurs même à attendre que Jésus renverse le pouvoir romain, alors qu'ils s'apprêtaient à arriver à Jérusalem, s'attendaient à ce que Jésus renverse le pouvoir romain par la force, prenne la place sur le trône par la force. Tout ça pour dire qu'ils ont vécu ensemble, alors qu'ils ont tout laissé pour suivre Jésus pendant ces 3 ans-là, et il a dû s'en passer des choses. Ils ont dû s'en dire des choses. Ils ont vécu vraiment, il y a une relation de proximité qui s'est faite. Fait que j'aimerais qu'on puisse se mettre à la place de ce groupe pendant quelques instants. Ils ont vu des aveugles voir. Ils ont vu des morts ressuscités. Qui a déjà vu un mort ressuscité ici? Hein? Ils ont vu des choses que nous, on voit pas. Qu'on voit peut-être pas toujours. Ils ont vu des vies changer par centaines, pas juste 4, 5, 6. Ils ont vu des vies changer par centaines. Ils ont vu des foules être nourries avec seulement quelques pains et quelques poissons. Ils ont vécu ces choses-là avec Jésus. Ils ont ri, ils ont pleuré, ils ont travaillé ensemble, ils ont servi, ils ont saigné ensemble, ces gars-là. Et celui qui les avait emmenés dans cette vie, Jésus, a été subitement trahi par l'un d'eux, jour au lendemain. Trahi par l'un d'eux, qui était avec eux, qui marchait avec eux, qui a vu toutes ces choses-là. Et en quelques heures, a été jugé, a été arrêté, a été jugé, a été condamné, a été battu, presque laissé pour mort. Et ensuite de ça, a été condamné à mort avec les pires criminels. En quelques instants, tout ça s'est passé. Et tout s'effondre pour ces gars-là, ces 12 gars-là qui ont marché avec Jésus. Tout s'effondre pour eux en quelques instants, lors de cette journée-là. Et pendant que Jésus vivait ces moments atroces, eux, les 12, l'ont tous laissé, c'est ce que les évangiles nous disent. Ils se sont tous dispersés. Certains sont même retournés à leurs anciennes occupations quotidiennes, leurs occupations professionnelles. On le voit dans le passage de Jean 21 qu'on lit ce matin. Pour toutes sortes de raisons. Par peur des représailles, par les autorités. S'ils ont arrêté le maître, est-ce qu'ils vont nous arrêter nous? Probablement qu'ils se posaient cette question. Par déception. Peut-être que certains étaient déçus de voir que Jésus n'a pas terminé aussi glorieusement que ce qu'ils imaginaient. Alors qu'il était crucifié, eux le voyaient sur un trône. Il a été crucifié sur une croix, il est mort. Oui, il l'avait vu ressusciter à ce moment-là, mais certains, peut-être qu'ils ont retourné en arrière par déception. Jésus lui avait lui-même prédit, juste avant que ça arrive, dans Matthieu 26, qu'il allait être abandonné. Matthieu 26, verset 31. « Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et là, dans ce qu'on est en train de lire ce matin, dans le chapitre 21, on est à quelques jours de la résurrection. Ça fait 3 fois déjà maintenant que les disciples rencontrent Jésus ressuscité. Le texte nous dit qu'ils ont posé le questionner parce qu'ils ont reconnu ses gestes. Ils ont reconnu qu'il était. Est-ce qu'ils arrivaient à le reconnaître physiquement? On le sait pas. Le texte nous le dit pas. Mais ça nous dit quand même qu'ils osaient pas le questionner parce que c'était tellement impressionnant pour eux de le voir vivant. Mais à ce moment-là, puis on le voit dans le texte, on voit que pour un des disciples, c'est plus comme avant. Pour Pierre, c'est plus la même chose qu'avant. Pour Pierre, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que ça fait des semaines qu'il porte un fardeau sur ses épaules. Il porte un poids sur ses épaules qu'il n'arrive pas à laisser. Vous savez, on parlait des traits de caractère tantôt. S'il y en a un qui se démarque particulièrement dans l'équipe des disciples, c'est Pierre. Pierre, là, c'est le cliché parfait du fonceur affirmatif. On les aime, ceux-là. Volontaire, il y va, il est super bien intentionné, Pierre. On le voit à travers les évangiles. À chaque fois qu'il y a quelque chose, s'il faut lever la main pour faire quelque chose, c'est Pierre qui y va. Il agit, puis il pense après, des fois. C'est un peu ça, son défaut. Mais, on est tous différents. On est tous différents. Et à ce moment-là, Pierre avait déjà démontré à des dizaines de reprises dans les évangiles sa sincérité, sa spontanéité aussi, par des actions, par des déclarations, des fois très solennelles. Des fois, il s'expose tout seul, Pierre, sans trop savoir ce qu'il va dire, on a l'impression. Mais c'est lui qui avait déclaré dans Jean 6, versets 68-69, « Seigneur, à qui irions-nous d'autre qu'à toi ?» C'est toi qui, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est Pierre qui a dit ça, hein. Il est fonceur, il est solennel, il y va. C'est aussi lui qui est sorti de la barque pour rejoindre Jésus en pleine tempête. Matthieu 14. C'est lui qui a fait ça. C'est encore Pierre qui va d'abord refuser que Jésus lui lave les pieds, puis finalement va lui dire « Lave-moi tout entier, Seigneur », quand il va réaliser dans Jean 13. C'est Pierre, ça. C'est Pierre, de nouveau, qui venait de dire à Jésus que si tout le monde allait trébucher quelques instants avant qu'il soit arrêté, lui, jamais il le fera. Jamais, jamais. Tous les autres. Matthieu 26, c'est Pierre qui dit ça. C'est encore Pierre qui a sorti son épée pour défendre Jésus quand il a été arrêté. C'est Pierre qui a fait ça. Et Pierre a démontré à ce moment-là, à mon avis, qu'il était pas mal plus habile avec un filet de pêche qu'avec une épée. Parce que moi, je suis convaincu, là, il a pogné l'oreille. Moi, je pense qu'il visait le centre. OK? Fait que je pense que le pêcheur de poissons, c'était mieux. OK, pour lui. Jésus avait vu juste. Il n'a pas fait de lui un chasseur. Il a fait d'un pêcheur de poissons un pêcheur d'hommes. Et ça, ça nous montre encore une autre chose. C'est que Jésus prend nos vies telles qu'elles sont. Et il la transforme à sa gloire et il se sert de ce que nous sommes. Amen. Jean 13, versets 36 à 38, c'est Pierre qui a déclaré ça encore. Simon Pierre lui dit, il parle à Jésus, « Seigneur, où vas-tu ? » Et Jésus lui répondit, juste dans ce dernier repas qu'ils ont pris ensemble, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. Et seulement quelques instants plus tard, on va lire ceci. Dans Jean 18, au verset 18, alors que Jésus a été arrêté, Jésus était devant le Sanhédrin, en train d'être jugé et condamné à tort, les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Et Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Il y a quelque chose qui est plus pareil pour Pierre à partir de ce moment-là. À partir de ce qui a pris place autour de ce premier feu de braise. Parce que ce soir-là, autour du feu, Pierre a renié Jésus, juste après avoir fait des déclarations incroyables à son maître. Si tous les autres t'abandonnent, moi je t'abandonnerai jamais. Et quelques instants plus tard, il est en train de renier Jésus avec une virulence, avec quelque chose qui, pour toutes sortes de raisons, qui l'anime au fond de lui, une crainte, une peur, on ne sait pas trop pourquoi il fait ça. Mais juste après avoir fait ses grandes déclarations, il a renié Jésus. Mettons-nous à sa place quelques instants. Mettons-nous à sa place. Moi, j'imagine la honte qu'il devait avoir quand il voyait Jésus ressuscité. J'imagine Pierre, à chaque rencontre avec Jésus ressuscité, suite à ce qui s'est passé autour du feu. Je crois qu'il y a une parole pour nous ce matin. Vous savez, très souvent, on se retrouve dans nos vies à accepter de porter toutes sortes d'étiquettes qu'on a placées sur nous-mêmes ou que quelqu'un a placées sur nous. Des étiquettes de toutes sortes. De toutes sortes de manières, on le fait aussi. Des étiquettes du genre, t'es qu'un trouillard, t'es un peureux, t'oses pas faire ceci, t'arriveras jamais à rien. Tu fonces tête baissée toujours, regarde, t'es tout le temps en train de... T'es un échec, ta relation est un échec, divorce. Échec, abandon, toutes sortes d'affaires qu'on accepte, qui nous soient posées sur nous. T'es pas aimable, t'es pas beau, t'es pas belle. Toutes sortes d'affaires qui ne font pas partie de notre identité, mais qu'on considère comme étant une partie de notre identité parfois. Moi, j'ai décroché au secondaire à l'école. J'ai décroché complètement, j'ai abandonné l'école pendant une période d'années jusqu'à me rattraper. Et jusqu'à ce que je rencontre Jésus, cette étiquette faisait partie de ma vie. Décrocheur, échec, pas bon, pas capable. On porte tous des étiquettes de toutes sortes sur nos vies. Mais trop souvent, on oublie que quand Jésus a accepté d'aller sur la croix, lui qui était sans péché, lui qui était parfaitement juste, il est le Fils de Dieu venu sur terre. Il a laissé le trône pour venir s'abaisser jusqu'à nous. Fils de Dieu venu sur terre, complètement juste, parfaitement saint, a accepté d'aller sur la croix pour être sacrifié pour notre péché. Et il y a un transfert, il y a quelque chose, il y a une transaction légale qui a pris place sur cette croix. Alors que Jésus déclare que tout est accompli, sa justice parfaite nous a été communiquée à nous. Elle a été placée sur nous. A été communiqué à celui, sur celui ou celle qui place sa confiance dans l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli. Trop souvent, on a tendance à oublier ça. Toutes ces étiquettes, Jésus les a prises sur son compte à ce moment-là. Toutes ces étiquettes avec lesquelles on se promène, pour celui qui place sa confiance en Jésus, ton identité, elle n'est plus dans ces étiquettes. Elle n'est plus dans les échecs, elle n'est plus dans ce que tu as fait ou dans ce que tu n'as peut-être pas fait. Elle est en Jésus. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. À cause de Jésus, ma dette est payée. Ce qui me séparait de Dieu a été retiré et je peux être en paix avec Dieu. Sans ces étiquettes, libre de ça. Dans le texte qu'on regarde ensemble, Pierre comprenait pas ce que Jésus avait fait encore. Pierre comprenait pas tout ça à ce moment-là. Et même s'il avait déjà vu Jésus vivant à 3 reprises à ce moment-là, il portait, et on le voit, moi je le vois dans le texte, il portait ce tag sur lui où il était marqué en énorme, traître, échec. T'as manqué, man. Tu l'as manqué, là. T'as été 3 ans avec Jésus, puis là, tu le renies. Comment ça devait tourner dans son esprit? C'est pas pour rien qu'après avoir renié Jésus, il s'est enfui, il est retourné à ses affaires. On le voit en train de pêcher du poisson à son ancien job. Il s'est retiré à cause de ses regrets, Pierre. Et même s'il avait déjà vu Jésus depuis sa résurrection, moi, je suis certain que dans son cœur, au plus profond de lui, quand Jésus le regardait, Pierre devait longer les murs, devait baisser les yeux. Pierre devait avoir un regret à ce moment-là dans son cœur. Pierre n'était plus le même. Il n'était plus le même, puis on le voit, les disciples voient Jésus sur la rive et Pierre se jette à l'eau. Pierre va se cacher. Pierre n'est pas du tout là, ce n'est pas le Pierre qu'on a déjà vu. Je suis certain qu'il devait passer des journées entières à trouver un moyen, à essayer de trouver le moyen de se racheter, de réparer ce qu'il avait fait. Tellement souvent on se retrouve dans ce genre de situation dans nos vies. Vous savez, la vie chrétienne, ça ne peut pas être parfait. La vie chrétienne, c'est des essais-erreurs. On avance. On fait de notre mieux, on veut marcher avec Jésus. Et oui, il y a des bobos, oui, il y a des cicatrices. Je me rappelle à un moment donné, quand j'étais tout nouveau dans le ministère, on était dans une très belle église, comme vous, c'est une magnifique église que vous avez. Et nous, tout était, il y avait beaucoup d'aluminium brossé, puis j'ai un professeur de collège biblique qui vient, puis qui nous dit, la vie chrétienne, c'est pas des plaques d'alu brossées comme vous avez à l'église. La vie chrétienne, ça ressemble plus à une vieille palette. Vous savez, les palettes de transport? Ça a plein de marques, il y a des traces de peinture, il y a des clous, on l'a rabouté, on l'a rattaché, et Dieu s'en sert. C'est magnifique d'avoir de la lue brossée, là. Mais la vie chrétienne, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est des morceaux, Dieu a laissé des traces parfois, a laissé des cicatrices, même quand il nous a guéris, parce qu'il veut qu'on puisse se souvenir de ce qu'il a fait dans nos vies. Il veut qu'on puisse être reconnaissant, il veut qu'on puisse aller regarder en arrière puis se dire, ce que lui, il a fait déjà dans le passé, il va le faire encore dans mon avenir. Dieu veut se servir de ça. Dieu veut se servir de ça. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a tellement de situations dans nos vies où on a l'impression d'avoir littéralement détruit tout ce que Dieu avait prévu dans nos vies. Nous-mêmes, on l'a détruit par un geste, par une parole, par quelque chose qu'on a manqué, quelque chose qui s'est passé dans nos vies, qu'on a subi peut-être. Une crise de colère. T'as pété une coche. Une crise de colère, c'était incontrôlable. Une rechute dans quelque chose. Ça fait plusieurs fois, un pattern qui revient dans ta vie, puis à chaque coup, c'est comme si tu as un regret de plus, puis tu te dis, Seigneur, je vais y arriver, je vais te montrer que je peux y arriver encore. Je vais essayer d'y arriver. Et quand vient le moment de croiser le regard de Jésus, on est là, mais c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est plus pareil, comme pour Pierre. Et finalement, pour toutes sortes de raisons, là, comme pour Pierre, on laisse la voix de l'accusateur faire son œuvre. T'es un échec, t'es un menteur, t'es pas un vrai. C'est pas vrai tout ça. Et c'est nous qui retournons en arrière. On finit par reculer nous-mêmes. Et comme pour Pierre, c'est comme si ce que Dieu avait déclaré sur notre vie, avant cet échec, était mis sur pause. Il n'est pas abandonné, c'est pas perdu, mais il est mis sur pause. Dans la vie de Pierre, on le voit. Dans les écrits de Jean, les détails sont importants. Très, très importants. Quand on lit l'évangile de Jean, quand on lit les lettres de Jean, il y a beaucoup de détails. Et ces détails sont très importants. Pierre avait chuté autour d'un feu de braise. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est mort au fond de lui. Et avant cet événement, du feu à, dans la cour du Sanhédrin, Pierre avait toujours été convaincu, il était affirmatif, il était présent, il y avait des déclarations, il y avait toutes sortes d'affaires. Mais au moment où Pierre va être rencontré à nouveau par Jésus dans le texte qu'on lit ce matin, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Puis on va lire la suite du texte, parce que ça ne s'arrête pas là. Matthieu 21, versets 15 à 19. « Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait demandé une troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Qu'est-ce que Jésus est perspicace? Qu'est-ce que Jésus est perspicace avec chacun d'entre nous? Il connaît parfaitement l'état du cœur de Pierre, il connaît parfaitement l'état de ton cœur ce matin. Il sait comment t'es arrivé à l'église. Il sait très bien que ça fait des semaines que Pierre a le regard bas. Il sait très bien où Pierre est. Et c'est pas pour rien que Jésus, même dans sa manière d'appeler Pierre, il va pas l'appeler Pierre. Avez-vous noté ça dans le texte? Il l'appelle Simon. C'est le nom de avant sa rencontre avec Jésus dans Matthieu 4, 19, quand il va lui dire, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Avant ça, il s'appelait Simon. Mais là, il l'appelle Simon, fils de Jonas. Il y a quelque chose qui est mis en pause dans sa vie. Jésus s'adresse plus à Pierre de la même manière. Mais regardons comment Jésus va réagir quelques instants, juste en terminant. Je vais appeler les musiciens, vous pouvez me rejoindre à ce moment-là. Alors que le cœur de Pierre s'est brisé autour de ce feu de braise dans la cour du Sanhédrin, quand il va renier Jésus trois fois, c'est exactement à la même place qu'il va être reconstruit. Jésus a littéralement reconstitué la scène. Avez-vous remarqué ça? Pierre a renié Jésus autour d'un feu de braise, c'est écrit dans le texte. Et Jésus, au moment où il va rebâtir Pierre, a refait ce feu-là. Il attend Pierre exactement à l'endroit où il a échoué. Littéralement à cet endroit-là. Quand on échoue pour toutes sortes de raisons, nous, notre tendance, là, c'est qu'on veut, parfois on s'éloigne très loin. Parfois, par toutes sortes de raisons, on a honte, on n'ose pas, on tarde avant de revenir pas. À la grâce, avant, au pied de la croix, à demander pardon, on tarde, on s'éloigne, puis le chemin des fois paraît si loin qu'on n'ose plus. J'ai connu du monde qui ont été à l'église, qui ont aimé Jésus de tout leur cœur, qui ont servi Dieu, puis une déception, quelque chose s'est passé, ont quitté l'église, n'osent même plus revenir à l'église. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis tout seul, le petit bonhomme qui s'est avancé tout seul à l'appel. Moi, quand Jésus m'a appelé, je voulais rien savoir de ce que les autres pensaient. C'est tout. Avec du recul, je le ferais peut-être plus comme ça. J'ai pleuré ma vie devant Dieu. Et il a changé ma vie à ce moment-là. Et je pense que quelqu'un a besoin de ça ce matin. Tu as besoin de revenir à Jésus. Tellement souvent, on ne sait plus par quel chemin revenir à Dieu. Et on oublie vraiment que Dieu, quand il est question de revenir à lui, il fait tout le nécessaire pour nous attendre là où on l'a laissé. Il nous impose pas de refaire le chemin au complet. Il nous attend là où on l'a abandonné. Il attend là. Et cette même question de Jésus résonne encore pour toi ce matin. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Peut-être que tu pensais que la dernière chute que tu as vécue, c'était celle de trop. Peut-être que tu pensais que cette fois-ci, là, je vais laisser quelque chose de côté. Je vais juste un petit peu moins m'impliquer. Je vais faire moins de choses parce que je suis pas prêt. Je suis pas parfait. Je suis pas ci, je suis pas ça. Peut-être que tu considérais, peut-être, tu avais donné ta vie à Jésus, puis tu considérais peut-être te faire baptiser prochainement, puis hey, on t'a dit que tu n'étais pas encore assez saint. Je ne peux pas parler à la place de votre pasteur, mais c'est le temps peut-être de prendre une décision, toi, que tu avais reportée pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a une voix au fond de ton cœur. J'aimerais te rappeler que Dieu se sert de ce temps d'affliction, comme il s'est servi du temps d'affliction dans la vie de Pierre, pour te changer, pour épurer ton cœur, tes motifs. Et il y a un avenir pour toi. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Quel est le feu autour duquel j'ai peut-être échoué? Quel est le feu autour duquel j'ai échoué dans ma vie? Rappelle-toi que c'est possible ce matin de revenir, d'être restauré pleinement au même endroit alors que Jésus t'attend pour te restaurer. Pour celui qui confesse ses fautes, il est fidèle et juste pour le pardonner. Quel que soit ce que tu as vécu, il peut changer les... c'est ce que la Bible nous dit, il peut changer les ténèbres en lumière. Peut-être que c'est une rupture de trop dans ta vie. Peut-être que c'est un échec relationnel. Dieu peut recoller les morceaux de ton cœur qui ont été brisés. Ça, il peut le faire. Et Dieu se spécialise dans ce genre de réparation-là. Il peut restaurer, il peut ressusciter un mort. Il redonne vie à des cœurs brisés. Il redonne la vie. Peut-être que la solitude t'a poussé à faire toutes sortes d'affaires, à retourner en arrière. Il veut t'accompagner encore. Il veut marcher avec toi. J'aimerais qu'on puisse relire juste une dernière fois. Jean 21, les versets 15 à 17. Jésus dit à Simon-Pierre, « Fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Notez bien comment Pierre répond. Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Et Pierre lui répondit, « Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Il y a un changement réel qui a pris place dans la vie de Pierre. Et ce changement-là est rarement instantané. C'est souvent un processus. C'est rarement quelque chose de superficiel. À chaque question de Jésus face à Pierre, c'est comme s'il y avait un coup qui lui était donné dans le cœur. À chaque fois que Jésus posait cette question-là, il venait percer le cœur de Pierre qui faisait face à son échec et qui rentrait toujours un petit peu plus en lui-même. Et je veux terminer avec ça. Pierre est tombé 3 fois en reniant Jésus autour de ce feu. Et Pierre a été rebâti en déclarant 3 fois son amour à Jésus autour de ce même feu. Et il commence par lui demander, et notez bien ça, Jésus demande, et Jésus confronte, il est perspicace, il confronte Pierre sur... Il y a un petit peu d'arrogance dans sa manière d'agir à Pierre, il est toujours spontané. « Hey, les autres vont t'abandonner, moi je t'abandonnerai pas. » Notez bien ça, regardez bien ça. Cette fois-là, il n'y a plus d'affirmation superficielle. Quand Pierre va répondre à Jésus la 3e fois, il fait appel à Jésus. « Tu sais que je t'aime, tu connais mon cœur. » Il n'est plus en train de dire, « Gare, oui, c'est... » À la première question de Jésus, « M'aimes-tu plus que les autres ?» Il ne répond même pas. « Oui, j'ai de l'amour pour toi. » Il ne parle pas des autres, il n'est pas en train de se monter. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur dans cette période d'épreuve-là. Il y a un changement qui a pris place. À ce moment-là, Pierre ne répond plus comme il le faisait avant. Il ne s'appuie plus sur son tempérament à lui, sur son caractère, ses capacités. Son cœur a été brisé à cause de la faute qu'il a commise. Dans ce moment-là, il a été brisé et il a décidé de tout remettre à Jésus. De poser un genou à terre. Sa réponse est « Seigneur, tu sais tout de moi. » Laisse-moi te dire ce matin que le chemin de la restauration commence toujours ici. Et la manière de répondre à l'appel de ce message, c'est de décider de poser un genou à terre dans cette situation que tu vis. Pose un genou à terre. Tout commence quand c'est déposé aux pieds de Jésus, à la croix, autour de ce feu de braise qui a été bâti pour toi, parce qu'il t'attend là où tu étais, ou là où tu l'as abandonné. Peut-être que tu t'es retiré pour toutes sortes de raisons. Jésus t'attend autour de ce feu-là. Je suis convaincu que plusieurs ont besoin d'être restaurés ce matin, de toutes sortes de manières. Tu portes un masque depuis trop longtemps. C'est le temps de l'enlever. Jacques 5,16 nous dit « Confessez-vous les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dans Matthieu 18, dans un climat où je peux être vrai devant mon Dieu, ben je suis au milieu d'eux. Fait que Jésus est là ce matin. Tu n'as plus besoin de faire semblant en attendant de trouver le moyen de réparer ce que tu as brisé comme Pierre a essayé de faire. Viens à Jésus. Jésus t'attend là où tu t'étais arrêté. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te prie pour chacun ce matin. Je ne connais pas la vie de toutes les personnes qui sont ici. Mais toi, oui. Comme pour Pierre, tu connais les cœurs. Et je prie, Seigneur, que tu puisses mettre en lumière les attentes secrètes ce matin. Les désirs, Seigneur, de se rapprocher de toi. Ceux qui ont été déçus. Ceux qui portent une honte. Déçus d'eux-mêmes. Déçus de leurs actions. Déçus de voir qu'il y a un pattern qui recommence dans leur vie. Seigneur, viens changer la vie de celui ou celle qui s'approche de toi ce matin avec le même cœur que celui de Pierre, en décidant de poser un genou à terre devant toi, qui décide de mettre sa confiance en toi, Seigneur. Peut-être pour une première fois, je ne connais pas, je suis de passage ici. Pose ta main, Seigneur. Toi, tu sais. Et je prie que tu puisses changer des vies ce matin. Je prie que tu puisses changer des vies comme tu as changé la vie de Pierre. Seigneur, cet exemple-là, nous voulons l'expérimenter dans nos vies. Alors merci pour ta parole ce matin. Merci d'être au milieu de nous, de faire ce que toi seul sais faire. Tu passes dans les rangées et tu changes les vies ce matin par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Amen. Et amen.